Europe 1, en balade avec Pierre Hermé. Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec Pierre Hermé que nous partons en balade aujourd'hui. On l'appelle le roi du macaron, il a inventé le concept de haute pâtisserie, il a été désigné d'ailleurs comme le meilleur pâtissier du monde, c'était en 2016. Il nous a donné rendez-vous au siège social de la maison Pierre Hermé qui compte aujourd'hui une cinquantaine de points de vente en France, en Europe, au Maroc, au Moyen-Orient, en Asie, aux États-Unis. C'est rue Fortuny. On va entrer.
Europe 1, 11h30, en balade avec Pierre Hermé. Frédéric Taddeï.
Bonjour Pierre Hermé.
Bonjour Frédéric.
Au troisième étage de cet hôtel particulier qui est le siège de la maison Pierre Hermé, non ?
En fait, non, qui est l'atelier de création. Donc ici, on fait toute la mise au point des nouveautés, des produits, des... Donc ça veut dire les essais, puis ensuite les dégustations et puis la finalisation des recettes qui ensuite seront fabriquées dans les différents ateliers de la maison.
Il y a d'ailleurs un garçon là en tenue blanche qui est en train de s'affairer.
Il y a trois personnes qui travaillent ici avec moi sur la partie création et mise au point des produits. Après, il y a aussi tout le travail de rédaction des recettes pour les rendre reproductibles par les équipes.
Dans tous les magasins que vous avez dans le monde.
Voilà.
Oui, c'est un travail assez précis.
La pâtisserie est un travail assez précis. De façon, on pèse tout.
C'est la grande différence avec les cuisines, mettons,
oui,
d'aujourd'hui.
Y a pas
c'est une histoire de peser.
Il n'y a pas de place au hasard. C'est-à-dire que si les ingrédients, bien sûr, sont tous les mêmes, la recette est toujours pesée de la même façon. Après, il peut y avoir une erreur, mais il y a un côté très méthodique de la pâtisserie.
La pesée, le temps de cuisson, tout ça, ça ne doit jamais bouger.
Ça n'a pas bougé. Alors, il faut mettre quelques bémols. Ça veut dire que quand on change de lieu, on change de four. D'un four à l'autre, il peut y avoir des différences. Mais une fois qu'on a mis au point par rapport à l'utilisation d'un four ou d'une machine ou même d'un ingrédient qui peut varier, après, on est super méthodique. C'est le pâtissier est extrêmement précis et attentif aux détails.
Alors ici, on est dans la rue Fortuny, donc dans un hôtel particulier du 19e siècle, comme à peu près toute la rue. On est au troisième étage. C'est très, très moderne ici. Hein. Autant l'escalier que j'ai emprunté pour monter, c'est un vieil escalier qui doit dater de l'époque. Et autant là, on est dans quelque chose de très design, de très moderne. On dirait que c'est un grand four. C'est un grand four, là, ou c'est une télévision ?
Non, c'est un écran.
C'est un écran de télé. Là, il y a un gros cœur suspendu. Ça me rappelle ceux de Jeff Koons, mais ça n'y ressemble
Alors,
pas.
Alors ça, c'est une œuvre que j'ai trouvée dans une galerie à Bombay. Je suis rentré dans cette galerie, j'ai vu ce cœur. Je dis, c'est très beau, un cœur de pierre.
Oui. Vous vous sentez bien ici pour travailler, non ? Il y a une verrière, c'est très ensoleillé. On voit la tour Eiffel tout au loin qui surgit au-dessus des immeubles.
C'est vraiment agréable pour travailler et puis pour faciliter aussi l'échange avec l'équipe, pour les créer aussi l'émulation. Donc on est vraiment dans de bonnes conditions pour travailler.
Alors le concept de haute pâtisserie que vous avez inventé, je ne sais pas si vous avez inventé le mot, mais vous avez inventé la chose en tout cas, c'est
oui,
que de plus en plus, vous êtes un pâtissier qui travaille quasiment comme un créateur de mode. Vous faites des collections d'ailleurs.
Oui, j'étais à l'origine de cette idée de lancer des collections saisonnières, parce que ce qui paraît être une évidence dans nos métiers,
oui.
Parce qu'on vit aussi avec les produits et les saisons, l'apparition, la disparition des produits. Et c'est quelque chose auquel je suis attentif. Et puis,
mais surtout, je crois que vous dessinez vos créations avant de les réaliser. C'est ça que je trouve le plus drôle, c'est qu'on puisse dessiner un gâteau avant même de le...
Alors, je dessine et j'écris. Ça veut dire que si Thomas Bassoleil, qui est le,
bonjour,
le
Thomas.
Pâtissier, travaille avec moi sur à l'atelier création, si on prend des recettes, voilà, un exemple, quelques exemples de
vos dessins.
Là, c'est un projet de choux tout fraise, à la fraise. Donc là, moi, j'ai mis la recette. Ensuite, on a fait des modifications de cette recette. On a fait des premiers essais. Et là, Thomas va refaire de nouveaux essais. Ça, c'est un nouveau millefeuille aussi sur lequel on...
Les dessins ne sont pas géniaux. Hein.
C'est simple.
C'est juste en fait, vraiment le minimum pour qu'on voit...
Voilà, le dessin, pour moi, c'est une façon de leur donner à comprendre les proportions entre les éléments. Et c'est vraiment du très, très, très basique.
Mais là, Thomas, vous comprenez bien ce qu'il veut là, quand vous voyez le dessin. Moi, je vois un gribouillis, mais en fait, non, c'est un dessin assez précis.
On arrive à comprendre. On a aussi une discussion autour du dessin. Ouais. Donc, tout est très clair quand on commence les essais.
Dire que ça te vendra très, très cher, ça, un jour.
J'ai commencé à travailler de cette façon-là en 1983. Ah ouais. Et donc, j'ai gardé toutes les archives depuis 1983.
Et alors, Dieu sait, vous avez publié des livres. Là, on réédite le macaron, votre livre sur le macaron,
oui,
avec toutes vos recettes qui étaient parues chez la Martinière. Vous n'avez jamais fait un livre avec tous vos dessins ?
Non, pas encore. On me l'a proposé.
Ah oui, parce que l'écriture est jolie. Tout, c'est très drôle, moi, je trouve, de le voir comme ça.
Alors, il y a certains dessins que j'ai mis en couleur, mais je n'ai pas suffisamment de temps pour les mettre en couleur.
Parce que là, le millefeuille, j'aurais jamais deviné que c'était un millefeuille. Maintenant que vous me le dites, c'est vraiment un millefeuille.
Oui, ça, c'est les trois couches de pâte feuilletée.
Ouais.
Là, c'est une crème, comment, une compote de fruits rouges avec un peu de crème. Ce trait-là, ce gribouillis-là veut dire un trait de crème pour coller la compote de fruits rouges. Et ensuite, ici, c'est la crème à la menthe fraîche ciselée. Et puis des morceaux de menthe ciselée dessus sur le millefeuille. Donc ça, c'est un millefeuille qui sera pas présenté en boutique, mais qui sera servi à l'assiette, donc réalisation aux minutes.
C'est pour mais ça. C'est autre chose là.
C'est autre chose, oui.
Il n'est pas nécessaire que ça puisse durer.
Alors Minena, c'est le nom d'une association de saveurs qui est menthe fraîche, fruits rouges.
Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, dans votre tête, vous savez déjà ce que ça va.
Je sais le goût que ça. Comme goût.
Voilà. Voilà, c'est ça. Avant même que vos collaborateurs l'aient réalisé.
Oui, parce que j'ai une idée précise de ce que je veux obtenir. Et là, dans cette crème à la menthe fraîche, je cherche vraiment à avoir le goût de la feuille de menthe. Quoi. C'est de préserver, dans la manière dont on travaille la menthe, de préserver ce goût de menthe fraîche. Et la compote de fruits rouges, c'est un mélange de cassis, de fraises, de framboises et de fraises des bois, avec un peu de groseille. Et en fait, ce que je veux d'abord, c'est l'amertume de la fraise des bois et ensuite le goût du mélange de fruits rouges dans lequel on ne distingue pas l'un ou l'autre. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est cette subtile amertume de la fraise des bois.
On va se retrouver pour une longue balade avec Pierre Hermé dans un instant.
Frédéric Taddeï en balade avec Pierre Hermé sur Europe 1.
Oui, c'est vrai que pour télécharger une attestation d'assurance, Internet, c'est bien. Avec la Mutuelle de Poitiers, tu peux même consulter un remboursement, déclarer un sinistre, enfin, c'est très pratique. Mais ce qui est encore plus fort, la Mutuelle de Poitiers, c'est que c'est ton assureur qui suit tes demandes, même sur Internet. Tu peux aussi l'appeler ou passer le voir, il peut même se déplacer chez toi, c'est comme tu veux. Et lui, c'est pas un plateau téléphonique. Tu vois ce que je veux dire ?
Avec la Mutuelle de Poitiers, c'est la proximité assurée. Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît et ça change tout.
La paire. Au printemps, la floraison des prix illumine le jardin des prix bienfaits. Les promotions ont éclos, elles sont si nombreuses. Regardez celle-là, moins 15% sur tous les meubles de salle de bain. Elle ne demande qu'à être cueillie.
Jusqu'au 25 mars, c'est le printemps des prix bienfaits chez La Paire. Et nous vous offrons moins 15% sur tous les meubles de salle de bain. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie.
Conditions sur lapaire.fr.
Nous sommes en balade avec Frédéric Taddeï et Pierre Hermé jusqu'à 12h30 sur Europe 1. Direction maintenant rue Fortuny, dans le 17e arrondissement de Paris, à la maison de création du pâtissier.
Pierre Hermé, pour moi, vous symbolisez les couleurs, pas seulement celles de vos macarons, mais en général, dès que je pense à vous, je pense à toutes sortes de couleurs. Et pourtant, vous êtes très souvent habillé en noir, voire peut-être même toujours. Je me demande si je ne vous vois pas toujours en noir.
Noir ou bleu marine, oui, ouais. Souvent.
Pourquoi ? Ça vous repose ?
Non, ça affine la silhouette peut-être. C'est pour
vous
ça.
Croyez, c'est peut-être pour ça. Alors, vous voulez dire que tous ceux qui s'habillent toujours en noir, que ce soit Thierry Ardisson, Philippe Stark, ce serait pour les mêmes raisons
Je ne sais pas. Vous êtes souvent aussi en sombre.
Oui, mais pas
vous n'en avez pas besoin.
Non, mais moi, j'essaie de mettre des couleurs quand même. C'est vrai que les couleurs, c'est très important d'ailleurs, parce que, alors, continuons sur la haute pâtisserie. Il y a l'aspect aussi qui est quand même fondamental, non ? Quand vous imaginez un gâteau.
Effectivement, l'aspect, ça veut dire, quand je dis l'aspect, c'est l'appétence. C'est-à-dire c'est que le produit donne envie d'être désiré, d'être. Et donc, j'essaye juste de le rendre appétissant et le plus simplement possible, sans trop d'artifices de décoration.
J'ai même l'impression que vous avez fait un effort au départ. C'était votre côté avant-gardiste. Vous avez beaucoup épuré dans ce domaine. Hein. On aimait beaucoup les froufrous.
J'essaye de ne pas mettre de décor superflu, à part quelques touches de poésie sur certains gâteaux, comme l'Ispahan qui s'habille de pétales de rose avec sur lequel il y a une touche de rosée. Là,
c'est un beau classique à l'Ispahan. Vous lui avez consacré même un livre à l'Ispahan.
Ça fait partie des exceptions à la règle, mais sinon, j'essaye toujours d'aller à l'essentiel et de ne pas décorer les gâteaux.
Parce que ça vous semble moins moderne
Je trouve que ce n'est pas intéressant parce que pour moi, l'essentiel, c'est le goût. Et donc, j'essaye de ne pas rajouter d'artifices qui pourraient ne pas servir le goût.
Il y a un baby-foot dans cette grande pièce.
C'est pour se détendre.
C'est pour se détendre. Après.
Mais il y en a qui sont très bons ici. Et donc, on joue de moins en moins parce qu'ils sont trop bons.
Il y a le bruit du baby-foot.
Et en fait, c'est ce bruit-là. Et puis
ça rappelle notre enfance. On est à peu près de la même génération.
Moi, ça me rappelle mes années de pensionnat aussi.
Ah bon ? Oui. Vous étiez où en pensionnat ?
Comment, chez les frères Maristes.
Ils avaient laissé baby-foot.
Il y avait un baby-foot. Il y avait même plusieurs baby-foot.
Et comment avez-vous atterri dans ce très bel hôtel particulier ? Vous savez ce que c'était avant ?
Ici, avant, c'était toujours des habitations, en fait.
Non, ça a été l'agence juive à une époque.
Ah oui,
oui, c'était là où, justement, on facilitait l'immigration des juifs en Israël et qui a été le lieu d'un attentat en septembre 73. C'est en 73, c'est Septembre Noir qui pose une bombe ici. Ils ne vous l'ont pas dit quand ils vous l'ont vendu.
Non, ils l'ont pas dit.
Voilà, mais c'est passé maintenant. C'était il y a longtemps.
Et le bâtiment d'en face est joli aussi. Oui, Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un bâtiment qui appartient à la Chambre de commerce de Paris. Ça a été une école de cosmétique et de coiffure pendant un moment. Et là, il est vide depuis maintenant 6-7 ans.
Et c'est un très joli bâtiment. Alors, je crois que vous vous trompez, parce que si je ne me trompe pas, moi, c'est là que Albert Dupontel avait sa société de production. Il n'a plus ici depuis 2017.
Voilà, pendant un moment, il était là.
Il était là et c'est là qu'ont été tournées des scènes de ces deux derniers films, de Neuf mois ferme et de Au revoir là-haut. C'est l'hôtel particulier d'Au revoir là-haut.
Voilà, ouais.
Voilà, et c'est un magnifique hôtel particulier.
Mais quand on est arrivé il y a maintenant 10 ans, il y avait une école de coiffure.
Et puis juste à côté, il y avait l'hôtel particulier de Marcel Pagnol.
Oui, absolument.
Oui, ici, il n'y a que des hôtels particuliers, on a l'impression. Mais avant, c'était sous l'ancien régime, c'était la plaine Monceau, on y chassait. Vous êtes chasseur ?
Non.
Non ? À l'époque, personne n'habitait ici.
Non, bien sûr. Oui. Et puis après, il y a la proximité du parc Monceau aussi qui est agréable.
Mais vous aviez envie qu'on y aille, d'ailleurs. Vous y allez souvent ?
J'y vais courir.
Ah bon ? Ouais. On va y aller à pied sans courir, ça ne me donne pas.
J'y vais courir ou marcher vite, ça fait du bien.
Pourquoi ? C'est une hygiène.
Oui, j'aime bien faire du sport un peu.
Ouais.
J'en fais pas assez, j'aimerais en faire plus, mais j'ai pas suffisamment de temps. Mais le parc Monceau est pratique parce que je vis pas très loin d'ici non plus, et donc c'est pratique pour moi.
Vous vous souvenez quand vous êtes arrivé ici, vous aviez 14 ans, hein, quand vous arrivez à Paris, vous arrivez seul ?
Quand je suis arrivé à Paris, en apprentissage chez le nôtre, oui, j'habitais donc dans une chambre de bonne près du pont Mirabeau. C'était en 1976.
14 ans, c'est jeune pour se retrouver tout seul. Hein.
Ah oui, c'est jeune, c'est une sacrée dose de confiance de mes parents de me laisser partir tout seul à Paris. Je suis parti du pensionnat pour arriver à Paris tout seul dans une chambre de bonne, donc oui.
Vous vous souvenez de la première impression que ça vous a fait, cette ville ?
Oui, j'avais qu'une envie, c'était de revenir à Colmar le plus vite après mon apprentissage.
Pourquoi Colmar vous manquait ou parce que Paris vous déplaisait ?
Parce que Paris me faisait peur, bien sûr, oui. Paris, je m'inquiétais de tout. J'étais tout seul, j'habitais tout seul, tout ça, donc j'avais peur. Et puis petit à petit, j'ai apprivoisé la ville et je me suis senti bien et je suis resté à Paris.
Et Colmar, c'était comment ?
Colmar, c'est mon enfance, c'est l'école Jean Massé à Colmar, c'est ma jeunesse. Et c'est certainement aussi à Colmar que j'ai eu envie de faire ce métier, parce que mon père était boulanger-pâtissier.
Pas votre père, vous êtes la cinquième génération.
Quatrième génération. C'est là que j'ai eu envie de faire ce métier. Je pense que c'est mon père qui m'a donné cette envie Et dès 8-9 ans, je savais que je voulais être
Mais est-ce que ce n'était pas une évidence? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes la quatrième génération, on peut se dire c'est peut-être qu'il n'avait pas le choix non plus.
Non, c'était... Ma mère a essayé de me dissuader de faire ce métier et elle n'y est pas parvenue.
Quel argument utilisait-elle?
Il va falloir te coucher tôt. C'était trop dur, il va falloir te coucher tôt et tu ne trouveras jamais de femme.
Et finalement, si.
Parce qu'elle, c'est une boulangerie-pâtisserie de quartier, dans un quartier à la fois ouvrier et maraîcher. Et ma mère ouvrait sa boulangerie à 5 heures le matin.
Et oui, et votre père, j'imagine, se mettait
à 1 heure du matin.
Oui, c'est ça, pour faire le pain. C'était l'époque. Vous n'avez jamais fait de pain, vous? Pas fou.
Mon père m'a fait voir, j'ai appris, mais je n'ai pas eu envie de faire le pain.
À cause de l'horaire.
C'est un beau métier, métier de boulanger. C'est très, très agréable aussi. Par contre, dans le métier de pâtissier, on travaille aussi la pâte. Et j'aime beaucoup cette partie du travail des pâtes, ce qu'on appelle le tour en matière de pâtisserie.
Pourquoi?
Faire les croissants, faire la brioche, faire la pâte feuilletée, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Pour moi, c'est vraiment l'essence du métier, en fait, la base du...
Ça ressemble un peu à la pâte à modeler, on a l'impression, quand on ne connaît pas. C'est le cas ou ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir.
C'est une fausse impression. J'ai bien fait de ne pas faire ce métier, alors j'aurais été déçu. On se retrouve avec Pierre Hermé dans un instant. On va prendre la rue Fortuny et on va aller vers le parc Monceau.
Allez, on y va.
Bon dimanche sur Europe 1 en balade avec Frédéric Taddeï et le roi du macaron, Pierre Hermé. Il est 11h18, Frédéric Taddeï et le célèbre pâtissier se dirigent vers le célèbre parc Monceau.
Nous voilà dans la rue de Fortuny avec Pierre Hermé.
Avec un soleil splendide.
Avec un très beau soleil et ses hôtels particuliers. Là, on arrive devant celui dans lequel Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac.
Vous savez que dans la rue Fortuny, il y a souvent des tours opérateurs qui passent avec des groupes de touristes et qui commentent chaque maison.
Je vois souvent. Est-ce qu'ils disent Pierre Hermé ou pas encore?
Je ne sais pas.
Non, vous n'êtes pas encore dans les guides. Bon, ça, mais il y a aussi celui où a grandi Nicolas Sarkozy. Oui. Il a grandi dans cette rue chez son grand-père. Et puis, il y avait l'hôtel particulier de Sarah Bernard qui maintenant est le cabinet d'avocat de Dominique de Villepin.
Je crois aussi que Frédéric Pechnard a vécu et grandi dans cette rue.
Le policier?
Oui.
Ah oui. Oui, c'est une sacrée rue. Hein. Là, maintenant, on est rue de Prony.
Et on aperçoit le parc Monceau devant nous.
Avec la rotonde du parc Monceau. C'est un quartier que vous aimez bien, le 17e arrondissement?
Oui, j'aime bien, en fait. Oui, c'est assez près de tout. Donc, en tout cas, pour moi.
C'est calme, avec des grandes rues, des longues avenues. Des ateliers d'artistes. On vous appelle depuis longtemps le roi du macaron, voire l'empereur du macaron. Il faut dire que vous avez été assez avant-gardiste dans ce domaine. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez mangé un macaron?
Alors, moi, j'ai connu les macarons de Nancy que faisait mon père. Ensuite, en arrivant à Paris, j'ai découvert les macarons, ce qu'on appelle aujourd'hui les macarons parisiens.
C'était chez le nôtre?
Chez le nôtre.
Vous étiez apprenti?
Et à l'époque, on faisait quatre parfums, vanille, chocolat, framboise et café. Et j'aimais pas du tout ça, les macarons. Je trouvais... il n'y avait pas assez de goût et que je trouvais que c'était un peu sucré. Et ce qui m'a aidé d'ailleurs, parce que du coup, je me suis dit comment je peux faire pour leur donner plus de goût. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de garniture. À l'époque, les deux coques de biscuits étaient collées juste avec un peu de garniture pour faire genre. Mais donc les macarons tels que je les ai imaginés sont riches en garniture, avec une garniture qui a beaucoup de goût. Et puis... toujours avec ce même biscuit qui est fondant à l'intérieur et qui est légèrement croquant à l'extérieur.
Vous vous souvenez, une fois, vous étiez venu dans l'émission que j'animais sur Europe à l'époque, le Social Club, il y avait Jacques Séguéla et il avait dit le macaron, au fond, c'est le hamburger des Français, sauf que les Français sont plus malins, ils l'ont fait plus petit et ils le vendent plus cher. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est plus cher qu'un hamburger? Alors,
je pense que au poids, oui, certainement. Mais je pense que le macaron garde quelque chose aussi de délicat, de subtil, de raffiné. Et puis, Donc, depuis mon apprentissage, j'en ai créé un certain nombre avec des goûts tous différents, soit sur un goût unique, ce que j'appelle les infiniments, ou alors avec des combinaisons de saveurs, Ispahan, Mogador, Envie,
Jardin Secret. Et donc, vous donnez toutes les recettes dans ce livre Macaron qui vient d'être réédité. Vous n'avez pas peur qu'on vous les pique ?
Non, parce que j'en crée en permanence. Donc, de donner les recettes, c'est aussi un moyen de partager et de transmettre.
Et de vous obliger à en créer de nouvelles, effectivement. Vous faites combien de créations par an, à peu près ?
Je ne sais pas, moi, plus d'une centaine hein, de
ah oui,
créations.
À
sur à la fois des gâteaux, des cakes, des glaces.
Et cela depuis 20 ans, à peu près. La Maison Hermé, elle existe depuis plus de 20 ans, maintenant.
Bien sûr, oui. Alors, je me souviens des premières créations que j'ai pu faire dans les années 80, dont un gâteau qui s'appelait le Paradis, qui était rose et framboise, qui, quelques années plus tard, est devenu Ispahan avec l'accord rose, litchi et framboise.
Mais je crois qu'à l'époque où vous créez le Paradis, la rose, le parfum de la rose n'est pas très apprécié à ce moment-là.
Non, non, non. En fait, j'avais découvert le...
Il y a un peu de bruit parce qu'on est sur le boulevard.
J'ai découvert le goût de la rose à travers la cuisine bulgare et ce qui m'a donné envie d'utiliser la rose. Comme la rose a plutôt un côté doucereux, j'y ai mis quelque chose en face, quelque chose d'assez brutal qui est la framboise.
Est-ce que vous avez remarqué à quel point les goûts du public peuvent changer là, depuis plus de 20 ans que vous exercez
Alors,
on est entré dans le parc Monceau. Hein, il y a beaucoup de jeux, d'enfants qui jouent au football. Il y a un manège qui tourne.
On peut acheter un café, une glace, une gaufre.
Oui, ça bouge les goûts.
Alors, les goûts évoluent, les goûts changent, mais souvent les gens qui franchissent la porte des boutiques chez nous viennent aussi découvrir des choses qui les surprennent, qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et je trouve que nos clients sont souvent assez ouverts à découvrir beaucoup de choses.
Mais parce que vous avez la réputation aujourd'hui d'être un avant-gardiste, donc on vient faire des expériences chez vous. Ça devait être plus dur dans les années 80 où on ne vous connaissait pas encore.
Oui.
Eh bien, puisqu'on est au Parc Monceau, écoutons Yves Duteil chanter au Parc Monceau, cette circonstance.
Au Parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les enfants sages ont des cerceaux. Au fil de l'eau, dissimulés dans les roseaux, on entend piailler les oiseaux. Le Parc Monceau, petit morceau de mon histoire, le vieux monsieur des balançoires, les cygnes noirs, la ville était à l'autre bout du monde, entre le lac et la rotonde. Au Parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, les cours d'histoire avaient bon dos. Près du métro, elle m'attendait sans dire un mot. J'ai pris sa main comme un cadeau. Le Parc Monceau, premier baiser de mon histoire, sur un des bancs d'une allée noire. Un peu d'espoir, la peur, la folle envie d'oublier l'heure, ma main posée contre son cœur. Au Parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, le bonheur a fait son berceau. Pour nos 16 ans, la pyramide et ses 1000 ans nous avaient caché des passants. Un parc en France, petit morceau de mon enfance, où j'ai trouvé l'adolescence. Un jour de chance, un square, bien à l'abri dans ma mémoire, quand j'y retourne par hasard. Au Parc Monceau, entre les grilles et les arceaux, entre les gardes et les landaux. Au Parc Monceau, entre les fleurs et les moineaux, les cours d'histoire avaient bon dos.
C'était Yves Duteil qui chantait au Parc Monceau. On s'y retrouve dans un instant avec Pierre Hermé.
On le surnomme le magicien des saveurs. Pierre Hermé est jusqu'à midi et demi en balade avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes au milieu du Parc Monceau avec Pierre Hermé, le Parc Monceau avec son célèbre bassin ovale bordé d'une colonnade de style corinthien, avec ses statues de Chopin, de Maupassant, de Gounod, de Musset. Un endroit où vous venez souvent courir, Pierre Hermé ?
Oui, je venais souvent courir ou parfois même tout simplement m'asseoir et regarder un peu les gens, mais plutôt courir, effectivement.
Alors ici, on a fusillé beaucoup de communards après la Commune, pendant la Semaine sanglante. Vous n'y pensez jamais ?
Non. Mais je crois qu'il y a eu une période où le parc Monceau était beaucoup plus grand que ce qu'il n'est aujourd'hui.
Ah bon ?
Me semble-t-il, oui.
C'est bien possible. Alors, c'était ici, ça a toujours été un rendez-vous d'artistes. C'est pour ça qu'il y a des statues de Chopin, de Gounod, de Musset, souvent de leurs muses, d'ailleurs. Vous avez des muses, vous ? Vous en avez une, au moins.
Mon épouse, Valérie, oui.
Vous lui avez consacré un macaron, je crois.
Le jardin de Valérie. Ouais. Donc, inspiré des parfums de son île.
La Corse ?
L'immortel, ouais. Et le Célat de Corse.
Et vous deviez être... un peu inquiet à l'idée qu'elle ne l'aime pas, non ? Quand vous lui avez fait goûter la première
fois. J'étais sûr.
Sûr de vous ?
Ah, j'étais sûr de moi.
Ah, ouais.
Parce que l'odeur de l'immortel, c'est vraiment quelque chose qu'elle affectionne tout particulièrement. Et moi aussi, c'est quelque chose qu'on a en commun. Et j'ai vraiment... Pour moi, c'est une des plus belles odeurs que je connaisse, l'immortel.
Ouais.
Cette odeur de presque de fève tonka, de foin, de... Enfin, c'est c'est une très très belle odeur, très subtile, très délicate.
Il y a devant nous un garçon qui marche avec un sac à dos. Il paraît que vous avez la phobie des gens qui ont des sacs à dos, c'est vrai ?
Ah oui, parce que je m'aperçois qu'ils oublient qu'ils ont un sac dans le dos. Et encore l'autre jour, j'étais dans un bus, il y a un type, il se retournait dans tous les sens, il avait oublié qu'il avait un sac dans le dos. Je trouve ça vraiment pratique.
Sauf quand on le prend à la figure, quoi.
Voilà. Alors ici, dans le quartier, de l'autre côté du parc, là, il y a un musée qui est le musée Nissim de Camando. Très, très petit musée, mais très, très joli. Et dans le musée, ils ont gardé, parce que c'était une maison de famille, ils ont gardé la cuisine. Il y a une très jolie cuisine, une très ancienne cuisine.
À laquelle vous êtes sensible. Là-bas, il y a une pyramide au milieu du parc Monceau. Il doit y avoir des tas de lucubrations complotistes sur la présence de cette pyramide au milieu du parc Monceau.
Il y en a même plusieurs des pyramides.
Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, au moment où vous devez vous mettre à créer un gâteau, un macaron
L'inspiration, elle peut être très, très diverse, mais c'est surtout, les ingrédients. Mais après, ça peut être une conversation avec quelqu'un, ça peut être une lecture, ça peut être une image, ça peut être... C'est vraiment très varié. Mais la principale source d'inspiration sont les ingrédients, la poésie autour des ingrédients. Je ne sais pas, par exemple, quand j'ai goûté la fleur de basilic séchée, j'ai tout de suite pensé à l'orange et le mariage... Fleur de basilic séchée orange fonctionne à merveille. C'est juste, on a l'impression qu'ils ont été faits pour s'entendre.
À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous étiez doué pour ce type de création Parce que ce n'est pas une évidence. Vous étiez apprenti chez Gaston Lenôtre. Vous auriez pu être un bon pâtissier sans pour autant être un créatif assez génial.
En fait, ce qui m'a permis d'imaginer des saveurs, c'est parce que je pense que j'ai toujours nourri cette grande curiosité et je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui se mangent, qui se goûtent, à l'origine des produits. Et tout ça va constituer une espèce de bibliothèque de goût. Et c'est là-dessus que je m'appuie pour me projeter dans l'association de saveurs, d'odeurs. Parce que j'aime bien travailler aussi autour des odeurs. C'est intéressant aussi.
Oui, ce n'est pas la même chose, hein, en fait.
Ce n'est pas tout à fait le même exercice, mais c'est très intéressant aussi.
Qu'est-ce que vous avez appris chez Le Nôtre ? Gaston Le Nôtre, c'était un sacré personnage. Hein. On a dit que c'était le pâtissier du siècle au XXe. On dira peut-être que vous étiez celui du XXIe siècle.
En fait, ce que j'ai appris chez Le Nôtre, c'est j'ai tout appris chez Le Nôtre. Ça veut dire ce que c'est que la qualité des produits, ce que c'est que ce qu'il faut mettre en œuvre pour produire de la qualité au quotidien. J'y ai appris la technique, j'y ai appris le métier, l'histoire du métier. En fait, tout ce qui forge le savoir-faire sur lequel je m'appuie encore aujourd'hui. Ça reste encore pour moi un référent.
Et vous l'avez bien connu ou vous étiez qu'un petit apprenti qui n'avait aucun contact avec...
Alors, en fait, j'étais un petit apprenti quand je suis rentré dans la maison et je suis resté apprenti pendant 2 ans. Et en fait, comme j'avais une telle soif d'apprendre... très vite, chez Le Nôtre, on m'a remarqué. Et petit à petit, j'ai eu accès à M. Le Nôtre et j'ai eu l'occasion de faire des voyages avec lui ou dans des réceptions. Donc, quelque part, il me connaissait. Mais il y a une anecdote, d'ailleurs, qui est dans les débuts où je travaillais chez Le Nôtre. On m'avait proposé d'aller faire des crêpes dans une réception. Moi, j'avais vu ma mère faire des crêpes. J'en avais jamais fait, mais je me suis dit... j'ai envie d'apprendre et donc et j'étais en train de faire les crêpes et tout d'un coup je vois passer une grande toque blanche qui me regardait travailler puis je m'aperçois que c'était Monsieur Le Nôtre. Ça doit être la deuxième fois que je le voyais de ma vie et il m'a dit mon petit tu sais pas faire les crêpes je vais te faire voir donc il m'a poussé, il m'a fait voir à faire les crêpes et je me suis dit bon voilà c'était c'était mon dernier jour chez Le Nôtre. Donc le lendemain, j'attendais de voir ce qui se passait. Il ne s'est rien passé. Et bon, j'ai appris à faire les crêpes.
Oui, directement.
Et j'avais l'impression que j'avais gagné mon ticket retour pour Colmar. Et puis bon, finalement, ça a été plutôt profitable.
Là, on est près de la colonnade corinthienne qui borde le bassin du parc Monceau. Il y a beaucoup de gens sur les bancs.
Alors quand on est ici, je pourrais presque vous emmener goûter un macaron à la boutique qui est le plus proche.
Il y a toujours une boutique proche de Pierre Hermé. Non, partout où vous êtes, il y a une boutique proche, que ce soit à Taipei. C'est quoi la dernière que vous avez ouverte là ?
Alors, la dernière que nous avons ouverte est à New York, chez Saks, dans le
grand
restaurant
magasin.
L'Avenue, dans le grand magasin Saks Fifth Avenue. Et c'est au 9e étage, dans le restaurant L'Avenue, ouvert par Jean-Louis Coste et ses associés.
Europe 1. Et ben, on continue notre balade dans le parc Monceau. On s'y retrouve tout de suite avec Pierre Hermé.
En balade avec, c'est chaque dimanche sur Europe 1. Frédéric Taddeï est accompagné de Pierre Hermé. Ils sont au parc Monceau à Paris.
Il y a un manège, il y a des enfants qui jouent... Il y a des gens sur les bancs qui lisent, qui écoutent de la musique sur leur casque. Et puis, il y a Pierre Hermé qui se promène devant le bassin ovale du parc Monceau, là où il y a des canards. Il y a vraiment beaucoup de monde.
Il y a toujours beaucoup de monde au parc Monceau. Et alors, en été, le dimanche, là, il y a des gens qui pique-niquent, il y a des gens qui font du sport. Enfin, il y a vraiment... C'est vraiment sympa.
Au moment de la mort de Gaston Le Nôtre, début des années 2000, on rappelait qu'il avait été à la tête d'une cinquantaine de boutiques dans le monde. C'est aussi votre cas aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression de l'avoir égalé ?
Oh, il n'y a pas de recherche dans ce genre-là.
Vous avez commencé chez lui, donc forcément.
Oui, mais
vous devez y penser.
Non, en fait, ce n'est pas quelque chose auquel je pense, en fait. Mais par contre, j'ai gardé beaucoup de liens avec la maison Le Nôtre et avec les différents chefs de la maison. Et il y a une vraie belle fraternité qui est présente tout le temps. Pour moi, ça reste une maison à laquelle je suis attaché et j'aime pas quand des gens essayent de me dire du mal, je lutte.
Est-ce que c'est pareil avec Fauchon ? Vous êtes resté 11 ans, je crois.
Bien sûr, oui.
T'es chef pâtissier chez Fauchon.
Chez Fauchon, j'ai eu cette chance qu'on me fasse confiance très jeune. À 24 ans, j'ai pris la direction de la pâtisserie chez Fauchon pendant 11 ans. Et c'est vrai que j'ai gardé aussi un attachement particulier à cette maison et aux différents chefs pâtissiers qui s'y sont succédés.
Et où avez-vous fait vos premiers macarons alors ? C'était chez Fauchon ?
Mes premiers macarons, mes premières créations, j'ai eu testeur un ministre qui s'appelait Charles Hernu.
Ah oui.
Parce que j'ai fait mon service militaire au service du ministre de la Défense.
Et il était le ministre de la Défense de François Mitterrand.
Voilà, donc je suis arrivé quelques jours après son arrivée au ministère. Et ça a été mon premier cobaye.
Il a aimé ?
J'ai l'impression parce que j'avais gardé un contact avec lui et avec son épouse bien après mon service militaire. C'est quelqu'un qui aimait manger et qui appréciait les bonnes choses. Donc, c'est un Lyonnais qui aimait manger.
Et alors, qu'est-ce que vous avez appris chez Fauchon ? Parce que c'est y a la pâtisserie, mais c'est les traiteurs aussi.
Alors, chez Fauchon, donc, j'y suis arrivé très jeune et comme avec une mission. La personne qui m'a recruté, le directeur qui m'a recruté me dit « Je voudrais que vous fassiez de Fauchon la meilleure pâtisserie de Paris. » Et donc, je me suis attelé à cette tâche pendant 11 ans. J'ai eu une carte blanche pour créer, pour faire plein de choses nouvelles, enfin, redonner un nouveau souffle à la pâtisserie de cette maison.
Sortons du parc Monceau, on est avenue Velasquez, il y a le musée Cernuschi, on n'est pas loin du musée Camondo, il y a la SCAM aussi, où vient d'être remis le prix du meilleur intervieweur de l'année. Cette année, c'est Augustin Trapenard.
C'est là la SCAM.
Voilà, on passe devant la SCAM et on se dirige vers le boulevard Malesherbes. Alors, il paraît que quand vous étiez chez Fauchon, il y a une chanson que vous chantiez à tue-tête en
permanence. Ça c'était à l'époque, j'étais chez Le Nôtre.
C'était chez Le Nôtre.
Oui, j'ai eu l'occasion de travailler dans une des boutiques de la maison Le Nôtre. C'est vrai que j'aime beaucoup Luis Mariano et je chantais Mexico à tue-tête. Et ce qui avait le don d'énerver mes collègues.
Pourquoi Mexico ?
Je sais pas, j'aime beaucoup cette chanson, depuis toujours.
Et vous savez encore les paroles par cœur ?
Je les connais encore, oui. D'ailleurs, on pourra chanter tout à l'heure quand on retrouvera Michel Bernardo,
ouais.
Parce que lui, il le chante encore mieux que moi.
Et bon, on recommencera. Mais déjà, on va l'écouter. Est-ce que c'est pas une chanson qu'on entend tous les jours aujourd'hui, hein ?
Non.
Mais ça a été un énorme tube à
oui,
son époque.
Et il y a quelques années, j'ai eu la chance de voir au Châtelet le spectacle de du chanteur de Mexico et je me suis régalé d'ailleurs.
On écoute Luis Mariano.
On a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Prétend que les norvégiennes, filles du nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout, le soleil de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chatouille, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico. Tes femmes sont à la terre et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième c'est de chaîne, plus rien ne vous freine, on part au galop, on oublie tout. Le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la veine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Au soleil qui
châtaille,
le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour.
Mexico,
Mexico, tes femmes sont à la taille, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour.
Mexico, Mexico,
Mexico.
C'était Mexico, interprété par Luis Mariano, une chanson qui a beaucoup chanté Pierre Hermé. On en reparlera donc.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien sur Europe 1. En balade avec Frédéric Taddeï et le chef pâtissier Pierre Hermé.
Nous sommes maintenant dans une voiture qui nous emmène vers la rue Royale avec Pierre Hermé. C'est
le boulevard Malesherbes.
À la vôtre, oui, on passe juste devant, effectivement. On est dans une voiture très parfumée, il y a des roses. Vous sentez
tout,
vous ?
La rose est un ingrédient que j'ai beaucoup travaillé. Associé au caramel, associé au safran, associé à la framboise et au litchi, bien sûr, mais aussi avec la fleur d'oranger, au gingembre. Enfin, la rose est quelque chose un ingrédient qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de m'inspirer.
Mais à tel point que vous ne regardez plus la fleur en tant que telle, vous ne faites que humer son parfum ?
Ah non, j'adore les fleurs. J'ai une passion pour les fleurs. J'ai besoin d'avoir des fleurs dans mon environnement. Pour moi, j'aime vraiment beaucoup les fleurs, donc je la regarde pour aussi sa beauté.
Mais très souvent, à l'origine d'un nouveau gâteau, il y a un fruit que vous découvrez. Vous en découvrez régulièrement, hein, parce qu'il y a des fruits qu'on n'imagine pas, hein, qu'on découvre au bout du monde en général.
Oui, alors les fruits du bout du monde, c'est intéressant parce que ça fait réfléchir, ça fait gamberger.
Ça renouvelle.
Après, il y a toujours la difficulté de l'approvisionnement. C'est-à-dire, j'ai le souvenir de... Je suis allé au Japon la première fois en 1987 et j'y ai découvert le yuzu. Le yuzu est un agrume qui est entre l'orange, le citron et le pamplemousse. Et j'ai mis 20 ans à l'utiliser. Et là, je vais vous faire une confidence. Tout au début, comme je n'arrivais pas à m'approvisionner en yuzu frais et en jus de yuzu, j'ai reconstitué de mémoire le goût du yuzu. C'est-à-dire que je faisais un mélange de citron, d'orange, de mandarine et de pamplemousse pour obtenir quelque chose qui se rapproche du yuzu. Et puis, petit à petit, 6 mois, 1 an après, j'ai commencé à pouvoir m'approvisionner directement au Japon.
Et personne n'y a vu que du feu.
personne ne m'a dit c'est pas du yuzu.
Mais au Japon, vous avez beaucoup de boutiques hein, maintenant. Au Japon, ils s'en seraient aperçus, mais là, vous aviez du yuzu. Là.
Au Japon, on a toujours pu utiliser le yuzu. Mais j'ai essayé donc de reconstituer le goût du yuzu en travaillant un mélange d'ingrédients d'agrumes.
Et alors, je dis, évidemment, les fruits, dès qu'on trouve un nouveau fruit, j'imagine, ça fait palpiter votre imagination. Est-ce que c'est la même chose avec les fleurs ? Est-ce qu'à partir d'une fleur, vous pouvez avoir envie de...
N'importe quel ingrédient, en fait. Ça peut être aussi bien une fleur qu'une herbe, qu'une épice, même un légume. Hein. Il y a des choses intéressantes aussi. J'ai fait des macarons ou des gâteaux ou des produits avec des légumes, par exemple... Je pense notamment à l'asperge associée à l'huile de noisette, à la menthe fraîche associée au petit pois.
Menthe fraîche et petit pois, pour moi, c'est une soupe délicieuse.
Et voilà, c'était mon point de départ. Et le mélange orange, carotte, cannelle, c'est l'origine, c'est les salades marocaines. Et à partir de là, j'ai fait une interprétation sucrée de cette salade marocaine. Et ça marche bien, c'est super bon.
Au Maroc, vous avez une boutique aussi. C'est votre première boutique en Afrique ?
Oui, première boutique en Afrique à l'hôtel La Mamounia. Et en fait, on supervise toute la pâtisserie de l'hôtel, ce qui m'amène aussi à travailler sur des desserts marocains, et notamment ce dessert avec carottes, oranges, cardamone et cannelle.
Au fond, c'est sans fin. Vous vous ennuierez jamais.
Mais non, c'est il y a par exemple en ce moment un légume qui m'intéresse, c'est le céleri.
J'adore. Un peu oublié d'ailleurs. Hein,
ouais, j'adore le parfum du céleri.
Et si vous arrivez à réhabiliter le céleri, ce serait fort. Hein, parce que demander à un enfant ou un adolescent d'aujourd'hui de manger du céleri.
Je ne comprends pas d'ailleurs. Je trouve ça formidable le céleri. J'adore ça. Moi. Ouais.
Vous étiez heureux à la cantine de votre internat, enfant ?
Oui, moi je...
Il devait y avoir du céleri.
Je ne sais pas ce qu'il y avait, je ne m'en rappelle plus. Mais...
C'est parce qu'il y en avait dans toutes les cantines que ça a dégoûté une ou deux générations. Déjà.
Mais la betterave aussi, c'est un fruit, un légume pardon, intéressant. J'ai fait un dessert à base de fraises et de betteraves, il y a déjà de ça une vingtaine d'années, qui fonctionne bien. La betterave... ça permet de mettre très peu de sucre dans le dessert parce qu'elle est naturellement sucrée. Et le challenge, c'est de lui enlever ce côté terreux en y ajoutant de l'acidité et du parfum.
On est rue Royale, là, juste devant la boutique La Durée, la maison La Durée, qui existait bien avant la maison Pierre Hermé, qui était réputée pour ses macarons. Vous y avez travaillé aussi. Hein.
En fait, la maison La Durée a toujours été réputée pour ses macarons. Et je suis arrivé à un moment de l'histoire de La Durée où il fallait faire évoluer cette histoire du macaron et j'y ai contribué.
Ouais, c'est là que vous êtes devenu un peu le roi du macaron, au fond. C'est chez La Durée. Donc c'est la rue Royale avec ses boutiques de luxe, Maxim's, célèbre restaurant qui est là près de la place de la Concorde.
Et oui, et puis beaucoup de maisons dédiées aux arts de la table, la maison Bernardo,
c'est là où nous nous rendons, c'est chez Bernardo.
La maison Saint-Louis.
Voilà Bernardo avec ses lettres dorées. Eh bien, nous descendons de la voiture, je vous laisse écouter les infos, on se retrouve juste après.
Europe 1, en balade avec Pierre Hermé, Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Pierre Hermé et nous sommes rue Royale, au 11 rue Royale, devant la maison Bernardo. Vous allez me présenter, il est encore plus fort que vous, lui, c'est la cinquième génération, je crois.
Et oui, au moins cinquième génération.
Spécialisé dans... la porcelaine de Limoges et les arts de la table. Une très belle boutique.
Bonjour Michel.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Toujours un plaisir.
Merci de nous recevoir.
Bonjour. Je disais, vous êtes la cinquième génération, non ?
Oui, la cinquième génération. La maison a été fondée en 1863.
Oui, sous Napoléon III.
Que j'ai bien connu.
J'imagine. Il doit vous envier. Il est toujours très fier de dire qu'il est la quatrième génération d'une dynastie de boulangers-pâtissiers, mais vous faites mieux.
Je ne sais pas, vous savez, à partir du moment où on saute une génération, c'est déjà un exploit. Hein.
Donc, voilà. Oui, aujourd'hui encore plus qu'hier, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on a découvert le secret de la porcelaine ? Parce que pendant des siècles, on a regardé les Chinois avec envie.
Oui, alors ça venait via la Compagnie des Indes, ça venait de Chine. Et donc, les coûts de transport étaient très élevés. Donc, ça avait la réputation, et c'est là toujours, alors que ce n'est plus le cas, d'être un produit très cher. C'était réservé au cours royal. Et puis, on a trouvé, au XVIIIe siècle, dans la région de Limoges, le kaolin, qui est l'argile de balle essentielle pour la fabrication de la porcelaine. Alors, depuis, les mines de kaolin se sont taries, mais le savoir-faire est resté, et les manufactures sont restées.
Vous avez toujours l'usine à Limoges
Ah oui, oui. Nous avons deux usines. Nous avons notre usine d'origine, créée en 1863. Et puis, on a une autre usine à 15 km de Limoges. Et les deux sont toujours en activité actuellement.
Alors ici, il y a des assiettes, il y a tout le service de table, il y a des vases magnifiques, il y a des éditions d'artistes. Vous avez beaucoup travaillé avec Jeff Koons, avec Zhao Wuki. Mais qu'est-ce qui vous lie tous les deux ?
C'est le goût des bonnes choses, de la table, des arts de la table et la passion du beau, je pense. C'est ça qui nous réunit aussi.
Quand on a un service en porcelaine, autrefois on le transmettait de génération en génération. Maintenant, j'ai l'impression qu'avec les lave-vaisselles, on le casse assez vite. Quel conseil vous pouvez donner pour qu'on arrive à les conserver ?
Moi, je conseille de servir du lave-vaisselle parce qu'il faut vivre avec son temps. Ça ne casse pas plus et pas moins qu'autre chose. Naturellement, nous, on est très liés sur la création. Donc, on sort tous les ans des nouvelles collections. Nous, on incite les gens donc à renouveler. De même qu'ils renouvellent leur intérieur, ils renouvellent leur voiture, leur garde-robe, on les incite à renouveler leur service de table.
Donc, casser.
Pas forcément casser, mais si vous voulez, on peut également changer. Les goûts évoluent dans la vie. Puis voilà, il faut vivre avec son temps.
Et là, je vois la collection avec Calder qui est complètement d'actualité avec l'exposition Calder-Picasso. Ouais.
Hein, exposition magnifique.
Magnifique, ouais. J'y étais hier soir. C'est magnifique.
Est-ce que ça change le goût de manger dans de la porcelaine ?
Tous les sens sont mis à contribution quand on veut avoir un bon repas. Donc, c'est certain que quand vous avez un bel objet, ça magnifie certainement un certain nombre de goûts et ça magnifie la façon dont on peut l'apprécier. D'ailleurs, les chefs, les grands restaurateurs et puis les grands gastronomes ou les gens qui évoluent dans l'univers de la nourriture, ils sont très attachés, voilà, comme Pierre Hermé que je montrais.
En fait, pour moi, ça contribue au plaisir de manger les arts de la table. C'est vrai que moi, j'aime bien manger dans une belle assiette, dans une assiette fine avec une jolie vaisselle. Enfin, pour moi, c'est important dans le plaisir de manger.
Mais en même temps, alors vous qui attachez tant d'importance à l'aspect de vos créations, Pierre Hermé, c'est pas gênant ensuite de les voir dans une assiette qui elle-même est très colorée, où il y a un dessin, parfois d'un grand artiste. Est-ce que ça ne vient pas polluer à vos yeux votre propre travail ? Est-ce que vous ne préféreriez pas que ce soit dans une assiette blanche toute simple ?
Par exemple, la collection de Calder, moi, je la mettrais sur la table pour mise de table.
Avec des
ensuite, petites... je l'enlève pour mettre mes plats dans des assiettes.
Ben oui, parce que Calder, c'est des petites touches.
Pour moi, ça se prête très bien au dressage des plats parce qu'elle est décorée, mais en même temps très simple.
Oui, c'est à la japonaise.
Et puis après, dans les services ici, il y a aussi beaucoup de formes particulières. Je vois par exemple la collection que je connais bien, la collection Écume. Elle permet vraiment de bien mettre en valeur les plats aussi.
Qu'est-ce qu'elle a comme... C'est quoi la forme ?
C'est les petits points de différentes tailles.
Ah oui.
C'est une technique qu'on a développée qui consiste à désémailler partiellement des morceaux de la pièce en porcelaine, assiette ou tasse ou pièce à servir. Et donc, on joue sur la lumière parce que la lumière est attirée différemment entre les parties émaillées et les parties désémaillées en biscuit. Donc, c'est très joli.
C'est très joli, effectivement. Mais on a l'impression que l'assiette pétille.
Hein. Oui, moi, j'adore. Moi, ici, partout où mes yeux se posent, il y a quelque chose de beau, il y a de la beauté.
C'est vrai que c'est magnifique. Est-ce que les jeunes générations sont sensibles aux arts de la table, à la porcelaine.
Cette version-là, je ne la connaissais pas.
Mais c'est amusant parce que tu vois, ça, c'est un raté. C'est-à-dire qu'un jour, je, je me promène dans l'usine et puis je vois un de nos peintres qui cachait quelque chose. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ? Elle me dit, monsieur, j'ai raté ça en peignant et donc j'ai effacé en partie. Mais je dis, mais c'est très, très joli.
C'est très, très joli.
Alors, on va essayer d'en faire un modèle. Et voilà, et c'est comme ça que ça s'est fait.
Alors, j'ai vu aussi, en me promenant dans le magasin, en t'attendant, j'ai vu qu'il y avait une bougie à l'immortel. Tout à l'heure, on parlait de l'immortel en tant que goût et odeur. Là, vous allez pouvoir la sentir.
Je sens l'immortel, là. C'est délicieux.
On a l'impression qu'on débarque à Bastia, à l'aéroport, et qu'on sort de l'avion et on est happé au mois de juin par l'odeur de l'immortel.
Alors, on reconnaît le tropisme corse de Pierre. Là.
Oui, les jeunes, ils rentrent dans votre boutique.
Oui, bien sûr. Mais après, si vous voulez, il faut que ce soit un choix et un goût. Et de plus en plus, c'est par goût. C'est-à-dire qu'avant, très souvent, les achats se faisaient à l'occasion de la liste de mariage. Donc, c'était quelque chose qui était un peu dans le cadre d'usage et de convenance, ce qui existe toujours et ce qui est très bien. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent dessus par goût et justement qui ont cette démarche de renouveler régulièrement leur service de table. En France et ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaille à 80% à l'exportation. Aussi, on peut dire qu'on a travaillé aussi avec Pierre sur des formes particulières. Hein.
Pour les desserts.
Pour les desserts, dans une assiette à mille feuilles, une assiette à souffler.
Absolument. Et oui, il vous passe des commandes très spéciales comme ça.
Ah oui, oui.
Le travail en commun m'a permis de faire un dessert, qui est un dessert à partager à partir de quelque chose qui était destiné à un plateau à fromage. Et moi, j'en ai fait une assiette à dessert qui est une assiette plate, de 40 cm plate et carré, de 40 cm de côté. Et ça m'a permis de faire un dessert à partager que le chef pâtissier vient faire à table devant le client et qui a beaucoup de succès.
Eh bien, on va continuer notre balade avec Pierre Hermé. Merci, Michel Bernardo, de nous avoir reçus. Vous nous emmenez où ? À Beaupassage, c'est ça ? C'est
voilà,
un nouvel endroit.
Café, Beaupassage.
Vous connaissez ce nouveau lieu gastronomique dans Paris ?
J'habite à 50 mètres.
C'est vrai.
Et je vois le nom de Pierre tous les matins à l'envers, puisque je vais m'entraîner dans la salle de sport qui est au-dessus de son salon de thé.
Donc Beaupassage, qui est un nouveau lieu. Vous allez nous expliquer ce qui s'y passe exactement dans un instant.
Frédéric Taddeï, en balade avec Pierre Hermé sur Europe 1. Bon week-end sur Europe 1, sacré meilleur pâtissier au monde en 2016. Pierre Hermé est en balade avec Frédéric Taddeï et on plonge avec lui dans les plus belles rues de la capitale.
Et nous revoilà rue de Grenelle, que les auditeurs d'En balade avec connaissent bien puisque... Nous y sommes baladés avec Laetitia Casta, avec Hartmann Petrosian et maintenant avec Pierre Hermé. Nous sommes devant le 53 rue de Grenelle à l'entrée de Beaupassage. Se dressent devant nous les deux chaînes de Fabrice Hibert, un vert et un orange. On va passer dessous pour rentrer dans Beaupassage. Alors, c'est quoi Beaupassage exactement ?
Beaupassage, c'est la réunion de plusieurs lots d'immeubles. Et Laurent Dumas a imaginé de dédier toute la rue à des enseignes de l'alimentation. Alors ça va avec un supermarché bio ici, un restaurant autour de la mer par Olivier Belin, un Daily Peak de Anne-Sophie Pic, une boulangerie de Thierry Marx, une anélothèque de Yannino, et puis un salon de thé, pâtisserie, restaurant Pierre Hermé.
On vient là pour
j'oublie faire aussi 100% à Barabica, qui est une enseigne de café.
Oui, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de boutiques. Tout ça est à ciel ouvert. C'est un passage comme autrefois. On peut y venir faire ses courses.
Voilà.
Et mais puis là, on a le soleil.
Au-dessus,
ou la pluie.
Dans les immeubles, c'est des appartements. Mais toute la rue est dédiée à la nourriture, à la gastronomie. Et puis, j'ai oublié, dans les enseignes, il y a Nicole Barthélémy, la fromagerie Barthélémy.
Nicole Barthélémy, que les auditeurs de Malade avec connaissent bien. On était allé visiter son magasin. Elle nous a même emmené au sous-sol, ce qui est très, très rare.
Dans la cave à voilà, fromage, dans la cave à fromage. De maturation des fromages.
Vous y êtes allé, vous aussi ?
Oui,
c'est
bien sûr.
C'est un privilège. Alors, il y a des œuvres d'art contemporain. Je citais Fabrice Hibert, qui a été dans cette émission déjà. Mais
Il y a Eva Jospin. Oui.
Voilà, c'est une forêt d'Eva Jospin.
Stéphane Rink ?
Oui, Stéphane Rink. C'est un Allemand. Il a représenté des mangoustes. Là, c'est l'Enotech. Vous faites vos courses ici, Pierre Hermé?
Ouais, j'habite pas dans le quartier, mais ça m'arrive de venir dans le quartier parce que là, j'aime beaucoup là aussi la rue du Bac. Il y a plein d'enseignes de pâtisserie rue du Bac.
Ah bon? Mais vous, donc, vous mangez de la pâtisserie tout le temps? Vous ne vous contentez pas d'en faire?
Moi, je j'aime beaucoup goûter les pâtisseries de mes confrères. Donc,
Alors, c'est quoi votre pâtisserie préférée?
Bah, j'aime beaucoup les pâtisseries de Claire Damon qui est à côté, les gâteaux et du pain, les pâtisseries de Philippe Conticini.
Et de votre père, vous gardez quelle saveur en mémoire? Est-ce que vous avez
la tarte au quetch.
La tarte au quetch.
La tarte au quetch que faisait mon père.
Typiquement alsacien, la tarte au quetch. Mais alors, j'avais entendu dire, vous disiez dans une interview que vous n'aviez pas tellement gardé vos goûts d'enfance. Votre goût s'était forgé avec l'adolescence.
Oui, en fait, mais...
C'est souvent le cas, d'ailleurs, hein, parce que quand on est enfant, en fait, on n'aime que le sucré.
Oui, puis après, moi, j'ai tout le... Enfin, mon éveil au goût, c'est vraiment fait avec l'entrée dans le métier et la découverte du métier de pâtissier, des ingrédients du métier de pâtissier. Je pense que mon éveil au goût et ma curiosité pour le goût, c'est vraiment fait à ce moment-là.
Ça se travaille, le goût, ça s'éduque.
Oui, c'est un travail de mémoire aussi. Je pense que c'est un exercice. En fait, ce qui est intéressant dans les produits, c'est de connaître, bien sûr, le goût du produit, mais aussi l'origine du produit, comment c'est fait, comment c'est traité après récolte. Enfin, c'est tout ce qui tourne autour de la culture du produit.
On parle toujours du goût. On parle moins souvent de la texture. Est-ce que c'est important pour vous, la texture d'un produit?
Pour moi, dans le goût, il y a la saveur, il y a la texture et puis il y a les sensations. Quoi,
au toucher.
Voilà, oui.
Est-ce qu'il y a des produits que vous n'aimez pas rien que parce que le toucher est désagréable?
Non, il n'y a pas vraiment de... Il y a peu de choses que j'aime pas, en fait.
Vous avez cette chance. Eh ben, on va rentrer chez Pierre Hermé. Alors là, on n'y fait pas restaurant, on y fait pâtisserie.
Pâtisserie, salon de thé, restaurant aussi. Il y a
un bar.
On sert à déjeuner. Et puis, on sert les gâteaux et surtout beaucoup de café et de préparation à base de café.
Vous êtes un amateur de café?
C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur toutes les recettes et le savoir-faire de barista.
Eh bien, nous voilà, on entre. Bonjour. Il reste décontracté quand le patron arrive.
Oui, il n'y a pas de raison. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va, Hugo?
Il y a évidemment des macarons, mais aussi des Ispahans.
Des macarons, des gâteaux, des tartes infiniment caramel.
La tarte infiniment noisette aussi.
Des choux satine.
Les tartes infiniment citron. C'est un parfum que vous avez créé, ça.
Hein, oui, alors... Le nom satine, je ne sais pas si vous savez d'où...
J'ai pensé que ça venait de satin, mais non.
Non, en fait, c'est dans le film Moulin Rouge avec de Baz Luhrmann.
Ah non, le récent, alors.
Voilà, le récent. Il y a la danseuse, la meneuse de revue du Moulin Rouge s'appelle Satine. Et je trouvais que c'était très joli comme prénom, donc c'est devenu un gâteau.
C'est devenu un gâteau.
Et puis la tarte infiniment vanille, le demi-feuille, la tarte infiniment noisette, Montebello... Et le gâteau hommage. Alors le gâteau hommage a une histoire particulière parce que lorsque je suis arrivé chez Le Nôtre, il y avait une glace marron poire qui m'a impressionné. Ça m'a marqué à vie. Et ce goût de cette glace marron poire, je ne l'ai jamais retrouvé parce que c'était trop fort comme impression. Donc j'ai essayé de reproduire cette émotion dans un gâteau. J'ai créé aussi une glace marron poire, mais bien sûr elle est moins bonne que celle que j'ai en mémoire, mais elle sera toujours moins bonne.
C'est pas grave, puisque nous, on ne la connaît pas, celle que vous avez en mémoire, donc on va l'apprécier. Eh bien, écoutons tout de suite Catherine Deneuve. C'est un endroit qui devrait lui plaire. Et Malcolm McLaren, qui interprète Paris, Paris. C'est un album de Malcolm McLaren intitulé Paris, tout simplement.
D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Paris, Paris.
Là, une dose de Prévert. Mais sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau Lavoir. Une Simone de Beauvoir. Et deux singes en hiver.
Last night was made.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin. Un menu sans l'ardoise. Au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar. Sur un genou courtois.
Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert, Paris.
Zeste javanaise, la tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, nappée de macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam, en canal.
Oh,
Letty.
Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Ah, Letty, sans doute la seule femme.
Through this crowded desert.
Pouvait lui dire
Paris.
Madame.
C'était Catherine Deneuve et Malcolm McLaren qui interprétaient Paris, Paris. On se retrouve tout de suite avec Pierre Hermé, chez Pierre Hermé. Nous sommes chez Pierre Hermé dans Beau Passage, un lieu animé, jeune, lumineux. Ça ne ressemble pas au salon de thé tel qu'on n'aime pas se les représenter. Et là, vous êtes, nous sommes avec votre barista et votre torréfacteur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un barista ?
Un barista, c'est celui qui a le savoir-faire du barista. Ça veut dire la manière de préparer toutes les boissons autour du café et du thé. C'est-à-dire qu'on peut faire un café de différentes façons. Et il y a une façon de faire et une bonne façon de faire. Et il y a plein de mauvaises façons de faire le café.
Alors, comment devient-on barista ?
C'est une formation. Je pense que je vais laisser la parole à Maxime.
Alors effectivement, c'est une formation. Il y a pas mal de formations en France. Moi, j'ai appris sur le tas en Australie. J'ai commencé le métier de barista, le métier de serveur dans un café. Je faisais la plonge, je servais les cafés. Et de fil en aiguille, je suis passé derrière la machine à café. Et ça m'a tout de suite plu. Oui. Voilà.
Alors, malheureusement, avec les petites capsules qu'on met directement, c'est un métier.
Non, mais là, on parle d'un autre monde. Voilà. Parce que il y a un truc formidable aussi. Tout à l'heure, quand on était à l'atelier rue Fortuny, je vous ai parlé de la précision du pâtissier. Le barista a le même état d'esprit. Ça veut dire cette précision que tout est pesé au gramme près. Et il y a cette culture du savoir-faire et de la recette qui sont présents chez le barista comme chez le pâtissier. Donc, c'est deux métiers qui sont faits pour s'entendre et que moi, je trouve complémentaires l'un de l'autre.
Mais est-ce qu'on peut être un bon barista sans avoir un bon torréfacteur ?
Non, il faut tout de suite vraiment avoir un bon café. Ça, c'est super important pour avoir un bon produit en tasse. Non, c'est vraiment important d'avoir un bon torréfacteur.
Ouais. Et le torréfacteur, c'est vous, Hippolyte Courtier ?
Le torréfacteur, c'est moi. Avec un grand plaisir, un grand bonheur justement d'entendre Pierre parler du métier de barista. Parce que souvent, on le confond avec la sommellerie, avec d'autres métiers. Ah et effectivement, venant d'un pâtissier, eh bien, on prend conscience de la précision du barista et de son importance.
Et le torréfacteur, alors comment devient-on torréfacteur ?
Comment on devient un torréfacteur ? Alors, je ne sais pas si je suis un bon exemple ou je suis peut-être un bon exemple, mais moi, je viens de métiers complètement différents de l'artisanat du goût. Et pourtant, on est au service justement d'artistes et d'artisans comme Pierre Hermé. On devient torréfacteur parce qu'on pense que, et on a compris par les sens, que le café était une boisson de partage et une boisson qui aujourd'hui avait les moyens d'atteindre l'excellence. Donc c'est ce qui nous intéresse par la cuisson. par le sourcing d'un café particulier ou deux cafés particuliers, par la rencontre à la fois en amont et en aval. Donc on est vraiment un intermédiaire entre les producteurs, même si à l'Arbre à Café, on a une propre production et plantation aujourd'hui, et par le service d'experts que sont les baristas et puis d'artisans de bouche, de pâtissiers d'excellence qu'est Pierre Hermé.
Alors, il y a les gâteaux au café, comme la tarte infiniment café, où j'ai voulu faire une ode au goût du café. Il y a le macaron infiniment café. Et puis après, il y a, je me suis beaucoup intéressé, à partir de la rencontre avec Hippolyte, au savoir-faire des baristas. Et à leur contact, j'ai beaucoup appris sur la manière de faire un café. Alors, je ne sais pas, Maxime, si vous voulez décrire les étapes importantes du café.
Alors, pour faire un bon café, on va déjà partir sur un café fraîchement moulu. Moudre un café, c'est super important. Je pense que c'est la première étape importante. Il faut avoir une bonne taille de mouture. Ensuite, on va avoir le tassage. Le tassage aussi, pareil, c'est super important. Il faut que ça soit précis, net, plane aussi. Ensuite, il y a la machine qui va beaucoup jouer. Il faut avoir une bonne pression d'eau, une bonne température. De l'eau filtrée, ça, c'est super important. Et ensuite, ça va être le paramétrage de l'extraction. Voilà, avoir le bon ratio de café, d'eau, pour avoir la meilleure qualité en tasse et en bouche.
Et alors tous les deux, quand vous buvez un je ne vous parle même pas d'un café américain, parce que ça ne mérite même pas qu'on en parle, mais un café en capsule,
ça peut être bon café américain.
Hein, en fait, le café de qualité est à l'opposé de tout ce qu'on pense en France, bien souvent, même si on a cet anti-américanisme souvent viscéral. Mais le café de qualité qu'on appelle le café de spécialité a débuté côte ouest des États-Unis en partie. Ah oui. Pour des raisons politiques, bien souvent.
Pourquoi ?
Parce que c'était lié justement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le café est la boisson identitaire des États-Unis. Alors, Jefferson appelé à boire du café contre le thé anglais, évidemment.
Oui, et dans les raisons de la colère de Steinbeck, on n'arrête pas de faire des cafés. Mais généralement, on lit les raisons de la colère, où on voit le film avec Henry Fonda, et puis on va aux États-Unis, on boit le café, on se dit « Ah, putain, c'était ça !»
Eh oui, mais même John Wayne, au coin du feu, buvait du café, voilà, et pas le Perpinard comme les poilus français. Café.
Vous vous dites que non, c'est pas
non,
si mauvais.
Non, parce que... alors, les États-Unis, c'est un petit peu le pays de tous les contrastes, donc il y a à la fois du très très bon et du très très mauvais. En France, on a cette idée, et je pense que c'est un rapport un petit peu à notre propre histoire, du café de chaussettes. Voilà. On dit que c'est du jus de chaussettes. C'est les Français qui ont inventé la chaussette, d'accord, qui est encore très diffusée en Amérique centrale. Mais ce n'est pas parce qu'un café est dilué qu'il est mauvais.
D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, et ce n'est pas parce que c'est un expresso qu'il est bon, donc.
Du tout. Et Maxime parlait tout à l'heure de l'espresso. Hein, mais il y a une quinzaine de façons de préparer le café qui ont toutes leur intérêt. Et qui révèle toutes des arômes, des textures différentes.
Là maintenant, avec tout ce que vous avez dit, il va falloir me servir un café, moi, et donner envie d'en boire. Hein.
C'est en route, le café arrive.
Mais je croyais qu'il allait me demander ce que je préférais, etc. Non.
Pour l'instant, j'ai fait servir des espressos, et puis ensuite, on pourra passer à autre chose.
Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre a été le premier pâtissier à prendre, on va dire, le taureau du café par les cornes. Et à dire ou à comprendre ou à s'enthousiasmer pour une nouvelle approche du café en disant effectivement le café, c'est pas le goût du café qui m'intéresse, mais c'est le produit en lui-même. Et du produit, on va partir pour en faire ressortir toute la complexité, toute la diversité, toute la richesse gustative. Du coup, en 2012-2013, effectivement, il a créé ce qui est un fétiche infiniment en café, c'est-à-dire une vingtaine de pâtisseries à base de café, avec deux cafés différents, mais principalement un qui vient du Brésil et que vous allez goûter là, le Yapar Rouge du Brésil. Et il l'a développé sur une vingtaine de pâtisseries différentes. Et sur chaque pâtisserie, on a une aromatique qui est différente.
Et on boit un café différent en fonction de la pâtisserie.
Non, en fait, on boit le café qu'on a envie. Il n'y a pas de recherche d'associer un café avec la pâtisserie.
Comme on fait avec le vin dans la cuisine.
Il y a pas mal de méthodes d'infusion et d'utilisation du café différentes. Dans ces pâtisseries, par exemple, pour le cake, on fait infuser le café avec le beurre et c'est ce qui parfume la pâte à cake.
Alors, on nous a servi des cafés. C'est donc un Brésilien
Nous, à l'Arbre à Café, on torréfie une variété d'Arabica qui vient d'une seule parcelle, d'une seule plantation, un petit peu la méthode bourguignonne ou alsacienne dans les vins, et donc d'une seule plantation. C'est en direct. Le producteur est venu plusieurs fois ici à rencontrer justement Pierre. Et donc là, c'est un petit peu une photo d'un terroir qui s'appelle Pedrazul au Brésil. On est à 400 km au nord du Brésil. Et vous allez voir que c'est un café qui est à la fois très sapide. Donc c'est pour ça qu'il vous a arrêté au moment de sucrer.
Sucre. Voilà. Il m'a fait un geste en me disant que c'était totalement décommandé.
C'est qu'il faut goûter effectivement sans sucre. Après, nous, on aime beaucoup le canard.
Oui, c'est très, très bon.
En fait, ce qu'il y a dans ce café, on n'a pas d'amertume qui dérange. On n'a pas cette amertume violente qu'on trouve sur certains cafés. Parce que ça vient de la qualité du café et de la qualité de la torréfaction. C'est souvent la torréfaction qui abîme le café, en fait.
Il y a beaucoup de relief.
Voilà, il y a de la relief et ce que dit Hippolyte, il y a une forme de sucrosité qui fait saliver, qui développe les arômes en bouche, je trouve.
En tant que barista, vous en buvez combien de café par jour ?
Alors, personnellement, je n'aime pas l'espresso. Voilà, je préfère le café filtre. Mais boire un café... pour être au moins sûr de ce qu'on offre au client, c'est très important. Donc on va dire que, en fait, je bois pas d'espresso, c'est juste une petite gorgée pour confirmer la qualité du café.
Et vous, Pierre, beaucoup de café dans la journée ?
Moi, je dois boire 4-5 cafés par jour.
Ah oui, quand même.
Mais je bois vraiment des espressos assez serrés, dans une tasse bien chaude. Et je fais l'espresso et je le bois tout de suite.
Eh bien, merci de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Je remercie également la boutique Bernardo, la maison Pierre Hermé, par la même occasion. Je souhaite un bon dimanche aux éditeurs d'Europe 1 et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.